de nos frères et sœurs qui sont persécutés en raison de leur foi. Merci pour votre accueil. Bien sûr, merci à notre Seigneur Jésus-Christ de me permettre d'être ici. Hier, j'ai passé une excellente journée au travers du séminaire Tenir Ferme. Nous avons pu discuter. Et puis, j'ai passé aussi un agréable moment avec la jeunesse, où nous avons également parlé de nos frères et sœurs qui souffrent en Amérique latine. Hein, même s'il y a 95% de chrétiens, il y a des persécutions très fortes là-bas. Et je voudrais vous inviter à peut-être demander aux jeunes quelle est la situation. Ils la connaissent maintenant, la situation. Rappeler, portes ouvertes, notre mission. Souvent, on nous assimile à une mission au sens théologique du terme. C'est pas tout à fait vrai. Nous n'avons même pas de missionnaires là-bas pour évangéliser, mais nous sommes un ministère de soutien pour les ministères, les pasteurs, les évangélistes, l'évangéliste qui a besoin de Bible pour pouvoir annoncer la parole de Dieu, pour pouvoir nourrir ceux qui acceptent Jésus-Christ, le pasteur qui a des besoins matériels et qui n'arrive pas à subvenir les problématiques d'église, toute personne qui est confrontée à la persécution, qui est affaiblie, toute église, ben, nous essayons de répondre du mieux que nous pouvons, grâce au soutien de vos prières, grâce au soutien financier également, au travers de l'encouragement à l'évangélisation du monde, au travers de matériel d'édification, de Bible, avec historiquement frère André qui allait livrer des Bibles de l'autre côté du rideau de fer en contrebande avec sa petite coccinelle. Voilà. Également du développement socio-économique. Et puis nous existons depuis 1955 et nous avons cet outil, l'Index mondial de persécution des chrétiens, qui nous permet d'avoir une expertise depuis maintenant 30 ans. Hein, ça fait 30 ans cette année. Voilà, vous l'avez ici. 360 millions de chrétiens qui sont fortement persécutés, discriminés en raison de leur foi. Les chiffres que nous présentons à portes ouvertes sont toujours et systématiquement des chiffres à minima. Ce n'est pas une moyenne. Il faut comprendre qu'il y a au moins 360 millions de chrétiens persécutés. Alors, vous voyez cette carte avec cette couleur orange, cette couleur rouge, persécution forte, persécution extrême. Nous ne cessons, malheureusement, de constater année après année une carte qui de plus en plus s'assombrit, de la persécution extrême qui augmente. Même il y a 2 ans de ça, la persécution forte en jaune a disparu de la carte. Ce n'était pas une bonne nouvelle parce que ça veut dire que dès le 50e pays, comme le Nicaragua que vous avez ici, on démarre directement en persécution très forte et non plus en persécution forte comme c'était le cas jadis. Alors vous comprenez, avec un tel outil, que nous puissions vous donner des nouvelles de ce qui se passe. Et j'aimerais vous parler de ce petit pays, qui n'est pas un petit pays, qui s'appelle l'Afghanistan. Vous avez entendu l'actualité, vous avez vu tout ce qui a pu se passer dans ce pays et sans trop rentrer dans les détails, l'église, le réseau d'églises en Afghanistan qui était déjà très faible, très fragile, quelques milliers de chrétiens, s'est littéralement effondré. Avec des chrétiens, des jeunes chrétiens, je vois une jeunesse qui allait voir des mentors, des grands frères, qui parlaient, partageaient la parole de Dieu secrètement, qui s'exhortait. Aujourd'hui, le frère ou le grand frère est parti, a dû déménager, a fui dans des camps de réfugiés dans lesquels les talibans continuent de traquer les opposants politiques, continuent encore même de traquer des chrétiens. Et nous avons vu, à partir d'août 2021, une vague incroyable de persécutions, d'assassinats de chrétiens, là où les talibans avaient même des listes d'églises, des listes de noms pour pouvoir aller traquer ces fameux chrétiens. J'aimerais vous montrer un contexte dans une vidéo qui va vous montrer, donc il va y avoir du son, qui va vous montrer ce que ont vécu et continuent à vivre malheureusement les chrétiens d'Afghanistan.
Il y a un an, les talibans reprenaient le pouvoir en Afghanistan.
Imaginez que vous ayez grandi en tant que musulman et qu'un jour vous rencontriez Jésus dans un rêve. Une silhouette lumineuse vous attire, vous appelle par votre nom et vous dit « Suis-moi ». Vous avez entendu dire que d'autres avant vous ont eu le même songe, mais jamais personne que vous connaissez. Vous avez vu la foule lapider une femme accusée d'avoir trahi l'islam. Vous savez que poser des questions et suivre cet homme entraînerait de lourdes conséquences. Pourtant, contre toute attente, vous décidez de répondre à son appel, qu'importe le prix à payer. Vous vous retrouvez haï par votre entourage, accusé d'avoir jeté une malédiction sur vos proches et rejeté pour avoir sali le nom familial. On vous considère comme un traître à votre culture et à votre foi. Si d'autres l'apprennent, vous serez fouetté ou même tué. L'un de vos proches pourrait même être celui qui appuiera sur la gâchette. Miracle, vous apprenez que vous n'êtes pas le seul. Dieu guide vos pas vers un groupe qui se réunit secrètement pour parler de l'homme que vous avez vu en rêve, celui avec des cicatrices dans les mains. Vous confiez à vos nouveaux amis que cet homme vous connaissait et vous a appelé. Ensemble, vous découvrez son amour et apprenez son nom, Jésus. Puis arrive le 16 août 2021. Les talibans reprennent le pouvoir. Des hommes armés se tiennent fièrement dans le palais présidentiel. Dehors, c'est le chaos. Des familles entières veulent fuir. L'aéroport de Kaboul est la seule issue et beaucoup risquent tout pour monter dans un avion. Votre téléphone n'arrête pas de sonner, vos amis sont inquiets, ils vous envoient des textos. Comment vas-tu? Est-ce que tu vas bien? Mais un message retient votre attention. Le numéro est inconnu. Nous savons que tu suis Jésus. Nous connaissons ton nom. Un frisson vous parcourt l'échine, suivi d'un étrange sentiment de calme. Les talibans sont là, et on ne sait pas ce qu'ils feront. Mais vous savez qu'Emmanuel, Jésus, est avec vous. Voilà un exemple de la dangereuse réalité que vivent les chrétiens en Afghanistan. Notre contact régional nous a dit « Les chrétiens ne demandent véritablement qu'une chose, la prière. Toute protection terrestre leur a été retirée. » Frère André, fondateur de la mission Portes Ouvertes, a dit un jour que nos prières peuvent aller là où nous ne pouvons pas aller. Il n'y a aucune frontière, aucun mur de prison, aucune porte qui soit fermée lorsque nous prions. Nous vous invitons à intercéder pour l'Afghanistan. Chaque semaine, prions le nom de Dieu, car en son nom, il y a l'espoir, la puissance et le salut.
Voilà, c'était lors de notre campagne internationale de prière pour l'Afghanistan en novembre dernier. Bien entendu, ce n'est pas parce que la campagne est terminée qu'on ne continue pas à prier pour les frères et sœurs en Afghanistan. Voilà, donc quelques points de repère, bien sûr, août 2021, la situation en Afghanistan avec la reprise des talibans, l'église secrète mise à rude épreuve et... Je pense surtout à ces Afghans également, chrétiens ou non chrétiens, qui ont rejoint les pays limitrophes dans des camps de réfugiés et leur visa arrive bientôt à expiration et certains ont peur de revenir en Afghanistan. Beaucoup ont demandé l'aide des populations locales et malheureusement, il est apparu qu'il y a eu un trafic humain d'esclavage sexuel pour les femmes, dans lequel il y a malheureusement aussi des chrétiens. Donc la situation est vraiment dramatique, pas qu'en Afghanistan, mais aussi autour. Si vous avez vu la carte, vous pouvez vite voir qu'autour de l'Afghanistan, il n'y a que des pays en forte persécution, voire en persécution extrême. Cette année, du moins en octobre dernier, nous avions lancé le dimanche de l'Église persécutée. C'est ce que je fais aujourd'hui, avec ce thème « Éprouvé par le feu, notre foi plus précieuse que l'or ». Alors, ça questionne sur beaucoup de choses, mais avant ça, j'aimerais juste parler de ce monsieur, l'apôtre Pierre. On connaît l'apôtre Pierre, cet homme spontané, un peu bourru. On sait que, Seigneur, où tu iras, je te suivrai, même si je dois, je t'accompagnerai jusque dans la mort. Vous vous souvenez de ces paroles où Jésus qui dit « Je dois mourir, souffrir beaucoup », il dit « En réalité, je te dis, ça ne t'arrivera pas, arrière de moi, Satan », lui dit Jésus. Un homme qui présumait un peu trop de ses qualités, de son physique peut-être, et qui, vous le savez, la veille a dit « je t'accompagnerai jusque dans la mort » et le lendemain a renié trois fois le Seigneur. Mais pourtant, un cadeau de Dieu, voilà, vous avez ce passage au moment où Jésus réhabilite Pierre. Il va lui poser trois fois la question « Pierre, m'aimes-tu ?» Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, « Pierre, m'aimes-tu ?» Pierre est tout triste. Ça rappelle peut-être que la veille, enfin, pas la veille, mais ça rappelle peut-être qu'au jour de l'arrestation de Jésus, il l'avait renié trois fois. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il l'appelle à chaque fois à paître les brebis, il l'appelle au ministère, il lui dit « C'est vrai, tu es tombé, mais je te réhabilite et tu vas me servir. » Et quelque chose qui est intéressant, c'est ce que vous lisez. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort révélerait la gloire de Dieu, puis il lui dit, suis-moi. Suis-moi. Et c'est très curieux ce passage parce que Jésus lui dit, en gros, voilà, je t'annonce que tu vas me servir, mais que tu vas payer le prix et que tu vas mourir. Et selon la tradition chrétienne, Pierre est mort crucifié, la tête à l'envers. Alors, je ne sais pas comment on pourrait interpréter ça. Une mort pénible l'attend. Jésus lui dit « Suis-moi », comme si Jésus lui dit « Suis-moi, quel qu'en soit le prix ». Alors moi j'aime bien ensuite, parce que quand on continue à lire ce passage, Pierre essaye, pas de s'échapper, mais il se tourne vers le disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire Jean, et il dit à Jésus, et lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Il lui dit, si je veux revenir avant qu'il ne meure, toi, que t'importe? Toi, suis-moi. Deuxième injonction, c'est t'échappe pas, t'occupe pas de ton frère, de ta sœur, je t'ai appelé au service, tu sais un détail de ta vie, et suis-moi. Alors, je me pose cette question, et c'est une question qui est toujours lancinante, on en discutait hier. C'est vrai que je suis français, je vis en France, je ne suis pas persécuté, peut-être j'ai des oppositions familiales, mais si j'avais dû me baptiser en me disant « Anthony, tu vas mourir salement à cause de moi », est-ce qu'au final j'aurais pris les eaux du baptême? Est-ce que je me serais engagé? Alors, c'est pas une question qui doit nous polluer, parce que le Seigneur a voulu que nous rencontrions Jésus ici et parcourons, avançons avec le Seigneur. Mais il y a une réalité dans l'Église persécutée. Il y a des frères et sœurs qui savent très bien ce qu'on fait subir aux chrétiens. Je pense notamment en Inde, avec des extrémistes hindous. Et des gens sont touchés par la grâce de Jésus et disent « Je te suis Seigneur, quel qu'en soit le prix ». J'aimerais qu'on puisse lire le fameux chapitre qui parle de ça, et nous allons aller dans 1 Pierre, chapitre 1, et nous allons lire jusqu'au verset 9, normalement, oui, jusqu'au verset, même avant, verset 7. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, à vous qui avez été choisis conformément à la préscience de Dieu, le Père et conduit à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissant et d'être purifié par le sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté. Il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable, et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. On revient encore une suite. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Nous connaissons l'auteur, c'est Pierre, et nous l'avons décrit. Et quand Pierre écrit cette lettre, on est historiquement aux environs des persécutions de Néron sur les chrétiens à Rome. Chrétiens qui sont persécutés, brûlés vivants. Et ce passage biblique, cette épître, est écrit pendant ces vagues de persécutions extrêmes aux chrétiens. Mais elle n'est pas écrite aux Romains, elle est écrite pour les chrétiens d'Asie mineure, c'est-à-dire pour les chrétiens de Turquie actuellement. Et quand il écrit cette lettre, il leur dit quelque part, je vous préviens, ce qui se passe chez nous, ça va immanquablement vous toucher à vous aussi. C'est une préparation que Pierre écrit là. C'est comme si aujourd'hui, il y a 5, 6 ans, 7 ans de ça, un chrétien d'Irak ou de Syrie, soumis sous la pression et la persécution de l'État islamique, avait écrit une lettre à un chrétien d'Afghanistan, à Kaboul, il lui avait dit « Fais attention, nous avons l'État islamique chez nous, vous avez les talibans, et un jour l'armée américaine va se retirer. Fais attention, prépare-toi mon frère. » Les grandes lignes de ce chapitre 1, que nous avons lu en partie, Pierre parle beaucoup d'espoir. Il nous rappelle notre responsabilité, les devoirs à vivre comme des étrangers au milieu de la persécution. Nous sommes des résidents temporaires, notre patrie n'est pas ici, mais notre patrie est céleste, et nous sommes donc des résidents temporaires. Nous retrouvons plusieurs fois dans cette lettre, au chapitre 1, 2 et 4. Pierre annonce à ses lecteurs qu'être chrétien, c'est accepter d'être ces résidents temporaires sur la terre, mais c'est aussi probablement d'être amené à subir l'opposition du monde. Suivre le Christ, c'est être prêt à passer par l'épreuve du feu. Et nous allons développer cette image. Mais il est intéressant de voir qu'avant de nous parler de l'épreuve, Pierre rappelle la raison pour laquelle ses lecteurs sont dans la souffrance. Comme nous, parce qu'ils aiment Dieu, parce qu'ils aiment Jésus-Christ. Et il est bon, dans ce passage, de préciser que ce texte ne s'applique pas forcément à toutes les souffrances. Il ne s'agit pas des épreuves qui sont dues à nos péchés ou à nos égarements, à nos erreurs, mais il s'agit d'épreuves qui viennent ébranler notre foi, qui ne sont pas les conséquences de nos mauvaises actions. Chapitre 4, verset 16, il est dit « Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. » Revenons à ce passage du verset 3 que vous avez par ici. « Béni soit Dieu. » C'est curieux parce que dès le début de sa lettre, Pierre ne parle pas directement de persécution, mais il rappelle des choses essentielles que le chrétien doit se rappeler avant toute chose. « Béni soit Dieu. » Pierre nous invite à regarder à celui qui est digne de louange et avec qui nous avons choisi d'être mis à part conformément à son plan. Ensuite, quand nous lisons, il nous cite, Pierre, trois bénédictions qui découlent de cette acceptation de Jésus-Christ. Au verset 3 et au verset 4, « Il nous a donné une vie nouvelle. Nous avons une espérance vivante. » Et, chose importante, Dieu nous réserve des biens dans le ciel qui ne peuvent ni disparaître, ni être salis, ni perdre leur éclat. Et je trouve que c'est très encourageant. Pierre aurait pu directement commencer par expliquer la persécution. Il dit « Non, frères et sœurs, je veux vous rappeler pourquoi nous sommes d'une famille, pourquoi nous sommes dans le corps de Christ. Je veux vous rappeler quelle est notre bénédiction en Jésus-Christ. » Cette introduction de Pierre, qui rappelle notre position bénie devant Dieu, elle est nécessaire pour parler de l'épreuve. Il est bon de se rappeler pourquoi et pour qui nous sommes aussi prêts à souffrir et à vivre comme disciples. Nous avons tous accepté le salut en Jésus-Christ. Nous avons été bénis lorsque nous avons appris que même si nous pouvions, si nous continuons à être pécheurs de par notre nature, le Seigneur Jésus, par la foi, avait délivré sur nous un acte de justice qui nous rendait purs et qui nous dégageait, dans laquelle nous avions la vie éternelle. Mais c'est comme les deux faces d'une croix, comme une page à deux faces. J'accepte le salut de Jésus-Christ, mais est-ce que je le suis derrière? Est-ce que je peux dire, Seigneur, j'accepte ton salut, mais je ne veux pas te suivre? Cela n'est pas possible. Alors ça pose une question. Est-ce que ma confiance en Dieu, elle a des limites? Quelle est la valeur de mon engagement envers Jésus? C'est important, ça. Si jamais j'étais éprouvé à l'extrême, comme ces chrétiens afghans, quelle est l'intensité de la confiance que je porte à Jésus? Quand Pierre rappelle notre position bénie, il nous dit ce passage au verset 6, « C'est là ce qui fait votre joie, le salut. » Mais il donne une information importante aux chrétiens de Turquie, il dit « Quoique maintenant, c'est un temps d'épreuve qui arrive. Puisqu'il le faut, le verbe falloir, dei en grec, qui signifie une nécessité divine, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Il y a une espèce de dichotomie d'un côté, c'est là ce qui fait votre joie, le salut, mais vous allez être attristés par diverses épreuves. Et c'est maintenant un choix de Dieu, parce qu'il le faut, une nécessité divine, on va être attristé par diverses épreuves. Et nous sommes tous soumis, chers frères et sœurs, aux épreuves. Nous avons averti les jeunes hier que la vie n'était pas quelque chose de lisse et qu'il y avait des temps d'épreuves, et parfois des temps difficiles d'épreuves. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Dieu considérerait-il une nécessité de passer par l'épreuve? Pourquoi d'ailleurs ce texte ne nous parle pas d'épreuves issues de notre désobéissance, de nos mauvaises actions, mais pourquoi au contraire il nous dit, mais on ne fait rien de mal et on va vivre cette épreuve-là? La réponse, elle est dans ce verset. Ainsi, parce que vous avez passé par diverses épreuves attristées, parce que la valeur éprouvée de votre foi, et c'est pas la foi seule, c'est la foi éprouvée, est beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable, que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu. Il y a toute une pensée là-dedans. La foi seule, elle n'est pas plus précieuse que l'or. Je le dis, dire, je crois Jésus, je t'aime Seigneur. Mais si dans l'épreuve tout tombe, on aura une idée de la valeur de notre foi. Mais là, cette parole nous dit que la foi, quand elle est éprouvée, elle détermine une certaine valeur, un certain niveau. Et elle nous donne de savoir où est-ce qu'on en est avec Jésus-Christ. Et elle est comparée à l'image de l'or. Vous savez que pour faire fondre l'or, il faut la faire chauffer à plus de 1000 degrés. Et on utilise un creuset poreux dans lequel on met l'or brut avec toutes les qu'on a extrait et on fait brûler à plus de 1000 degrés, comme vous avez cette image en bas. Et les impuretés, l'or devient liquide, les impuretés sont absorbées par le creuset poreux, quelques impuretés. Et puis, les bijoutiers, au temps antique, c'est pour ça que Pierre prend cet exemple, prenaient souvent un petit morceau de plomb et ils le trempaient dans cet or fondu. Et ce plomb faisait une réaction physique ou chimique, je ne sais pas, qui, d'un seul coup, faisait ressurgir les impuretés qui étaient au fond et les faisait brûler au-dessus. La foi éprouvée a de la valeur. Ma foi, si elle est mise à l'épreuve, comme on met à l'épreuve l'or, elle va receler, elle va ressortir des impuretés. Elle va ressortir des choses cachées de ma vie que probablement j'ignorais. Des traumatismes, des peurs, des craintes. Elle va peut-être ressortir aussi des péchés. Elle va peut-être me faire réaliser des choses que j'ai mis des années à réaliser. Je suis un exemple de ça. J'ai passé des années à être paralysé par la peur. Et à ne pas faire des choses pour Christ à cause de cela. Le jour de l'épreuve, ma foi a été mise en exergue. Et le Seigneur veut mettre ceci devant nous. Le Seigneur veut révéler ce qui ne fonctionne pas. Parce que le but du Seigneur, ce n'est pas de nous démolir et de nous dire « tu es pécheur, tu es ci, tu es là », ce n'est pas ça. Mais le Seigneur veut extirper toute impureté de nos vies, de nos âmes, afin que nous ayons la liberté de lui faire confiance. Avoir confiance en Dieu, c'est la liberté. Assumer, affronter une épreuve en gardant la foi en Dieu, en gardant son espérance en Jésus-Christ, son espérance dans les cieux, c'est la liberté. C'est ne plus être attaché au monde, à ces valeurs du monde qui retiennent nos cœurs captifs, à des choses futiles et matérielles. Mais c'est dire mon âme est libre parce que Jésus m'a délivré. Ma foi est mise en valeur au travers du feu. Et puis, vous savez, il y a encore un autre effet dans cet or qui est brûlé, qui est mis en liquide. C'est que quand vous mettez l'or en liquide, vous pouvez le mettre dans un moule et vous pouvez lui faire prendre la forme que vous voulez. Jésus-Christ, au travers de cette épuration, pour améliorer notre confiance en lui, veut aussi nous donner la forme du serviteur qu'il a envie de nous donner. Et la forme de ce serviteur souffrant que Jésus a été à la croix, qui s'est donné pour nous. Je ne suis venu non pour être servi, mais pour servir. Nous sommes chrétiens, nous voulons servir. Nous voulons être à l'image du Christ, nous voulons correspondre. Oh oui, c'est tout un programme, nous n'arriverons jamais à imiter Jésus correctement, comme il faut. Mais c'est notre aspiration à être comme lui, c'est notre exemple. Seigneur, tu as été bon, compatissant, rempli d'amour pour ton prochain. Tu n'as pas jugé la prostituée, tu n'as pas jugé le Samaritain, mais tu les as sauvés. Tu as dit au centenier qu'il avait une foi plus importante qu'il n'avait jamais vue en Israël. Tu veux révéler les hommes, quelles que soient leurs origines, Seigneur Jésus. Et tu nous as offert cette vie éternelle, cette justice en nous. Maintenant que nous sommes sur le chemin de la sanctification, Seigneur, purifie-nous. Met en exergue la valeur de notre foi au travers de l'épreuve. Voilà pourquoi il est nécessaire que Dieu parfois intervienne et permette que nous subissions des temps difficiles. Révéler cette valeur, purifier notre âme des choses qui nous empêchent, qui nous handicapent, et prendre la forme de ce serviteur souffrant. J'aimerais vous communiquer une vidéo. C'est la vidéo du dimanche de l'Église persécutée, là où bon nombre de nos frères et sœurs témoignent de leur vie difficile.
तालिबान काबुल में आए थे उसी रात मेरी बहन ने अपने बेटे को जन्म दिया था लोगों की छोटी छोटी बच्चियों से शादियां कर रहे थे वही उसे कत्ल कर देते हैं जैसे उनका खानदान पता नहीं किस दिन ये हमारे दरवाजे पर आ जाएंगे ऐसे वक्त में मैं सोच कर भी आवाज पाकता हो जाती हूँ ऐ मेरे रब तीन रोज से एक ही दाल की कटोरी पे मेरा पूरा खानदान गुजारा कर रहा है डर लगता है कि उन लोगों के आने से पहले कहीं भूख ही ना हमें मार दे बेचारे का क्या मुस्तकबिल होगा ना अपने मजहब को समझ सकेगा ना औरत की इज्जत को हाय वो छोटा सा बच्चा उसके मुस्तकबिल में अभी बहुत कुछ पड़ा है उसी ने हमें बेशक मुश्किलें बर्दाश्त करने को बुलाया है जब उन्होंने मसीह को नहीं छोड़ा तो हमें कैसे छोड़ेंगे
La température était à son maximum. Je vous dis la vérité. Plus que le manque de nourriture et d'eau, le plus grand défi était le climat. C'était un désert comme le Sahara, difficile d'y survivre. Pendant toutes ces années, le gouvernement m'a emprisonné à cause de ma foi. Je n'avais aucun autre chef d'accusation. Quand ils m'ont arrêté, ils m'ont mis dans une cellule de 2 mètres sur 1. Pendant des mois, je suis resté là, dans cette pièce étroite. Il n'y avait pas de fenêtre. Je ne savais pas quand le soleil se levait ou se couchait, ni l'heure qu'il était. On se faisait appeler au moment où on s'y attendait le moins, et on se faisait battre. Puis, on m'a emmené dans un autre camp de prisonniers appelé Mitter. C'est un endroit extrêmement chaud. Il y fait 38 à 40 degrés. Je devais ramasser du bois, des pierres, travailler à la construction de maisons. Nous étions traités comme des esclaves. Par tous les moyens possibles, ils essaient d'épuiser votre corps, votre esprit et votre santé. La seule chose qu'ils font est de vous menacer. Ils vous demandent de renier votre foi et de la haïr. Honnêtement, la tentation a été très difficile. C'était extrêmement dur de répondre à cette demande. Cependant, avec l'aide de Dieu, nous avons persévéré et dit non. Nous avons refusé. Dans une certaine mesure, notre refus a prolongé notre séjour en prison. Si nous avions dit oui, ils nous auraient libérés plus tôt. Et puis, ils ont fini par nous libérer. Ils nous ont avertis de ne pas nous rendre dans les églises des mouvements évangéliques ou pentecôtistes. Ils ont dit, si on vous trouve à nouveau dans une de ces églises, vous serez tués. Mais jusqu'à présent, par la grâce et l'aide de Dieu, nous continuons de nous rassembler clandestinement. Nous prêchons, nous servons, nous baptisons les nouveaux venus et nous étendons le royaume de Dieu. La douleur que vous subissez vous traumatise. Toutes vos pensées sont anxieuses. C'est ça la vie en prison. Quand nous étions dans cette souffrance, nous cherchions vraiment la face de Dieu. Nous prions. Parmi les quelques moments heureux de mon séjour en prison, il y a eu ceux où j'ai parlé à des frères qui ont accepté le Seigneur. Il y a même eu des gardes qui ont accepté le Christ au cours des conversations que nous avons eues. Ce sont mes meilleurs moments. C'est pour le Christ que je vis. Je le sers encore plus depuis ma libération. Quand je vois la puissance et la grâce que Dieu m'a donnée après, c'est encore mieux qu'avant la prison. Oui, l'Église grandit, malgré les persécutions et bien que les dirigeants de l'Église soient emprisonnés. Elle poursuit sa mission. La persécution n'a pas fait perdre à l'Église sa puissance. L'Église ne sera pas fermée. Gloire à Dieu. La lumière de l'Église brille. Son goût devient bon comme le sel. Au début, beaucoup disaient des choses négatives sur nous, les chrétiens. Mais quand les gens ont comparé ce qu'ils avaient entendu sur nous et ce que nous sommes réellement, ils ont vu que les accusations n'étaient pas vraies. Ils voient que nous sommes de vrais croyants. Ils voient la pureté de l'Évangile en nous.
Je ne sais pas pourquoi Dieu a permis ça, mais je sais qu'étrangement, ça a renforcé notre foi.
La persécution affermit la foi. Dans l'épreuve, ta foi se construit.
Ils ont tout essayé, mais ils n'ont pas réussi à ébranler ma foi. Ils ont menacé de me tuer, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont voulu chasser nos enfants, mais pourtant, je continue de croire.
Honnêtement, quand ces choses sont arrivées, la mort de mon mari et l'attaque de Boko Haram, je me suis rapprochée de Dieu. Je dépendais totalement de Dieu. Je ne me suis jamais éloignée de lui. Je me suis fortement accrochée à Dieu. Il est devenu un père, une mère et un mari pour moi. Le désir de Dieu est que notre foi se renforce à travers cette épreuve. Notre foi, la mienne et celle de ma famille, est plus forte maintenant qu'elle ne l'était auparavant.
Après avoir connu le Christ, Dieu m'a fait grandir dans la prison comme le feu purifie l'or. Dieu m'a donné une foi qui est comme de l'or pur. Je suis tellement reconnaissante qu'il m'ait donné la foi de ne regarder que lui et de l'aimer lui seul.
और आपका मसीह एक है और हम दुआ के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि हम मसीह का बदन हैं खुदा आप पर हमारी मुश्किलात आयां करेगा और हमारी मुत्तफिका दुआ ही वाहिद हल है
Résultat de cette épreuve dans 1 Pierre nous dit aura pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra Et cette gloire, dans notre espérance, elle ne sera pas sur terre, mais elle sera dans notre véritable patrie, la patrie céleste. Voilà, le verset, effectivement. Voilà, si je pourrais conclure, rappelons-nous, chers frères et sœurs, de notre position bénie devant Dieu. Rappelons-nous de ce que Jésus a fait, de cette grâce imméritée auquel nous bénéficions. Ne soyons pas surpris si des fois des choses injustes, des épreuves, des difficultés de la vie viennent nous frapper et surgissent. Et je pense que beaucoup d'entre vous avaient de l'expérience dans ce domaine. Je ne vous apprends rien, je ne fais pas la leçon. Mais parfois, il nous faut y passer. Et je pense toujours, quelle est la construction que Dieu veut amener à ma vie au travers de cette épreuve? C'est une édification. Ça a pour but d'améliorer ma confiance, d'améliorer l'amour que j'ai en Jésus, de dépendre de sa grâce. Et puis, regardons à ces résultats célestes, cette espérance, ces biens qui ne pourront pas se détruire ni se flétrir, et cette gloire qui nous est réservée au ciel avec notre Sauveur. Voilà, j'aimerais vous inviter, si jamais, à poursuivre l'effort de la prière avec les frères et sœurs, si vous n'êtes pas abonné au magazine de Portes Ouvertes. On est obligé de faire payer le magazine, on aimerait le donner, mais on n'a pas le droit par rapport à la loi, mais c'est 5,50€ un an d'abonnement. Une fois 5,50€ et vous avez un an d'abonnement, les articles, les prières, le calendrier de prière mensuel où chaque jour vous avez un sujet de prière. Et si jamais vous n'avez pas d'activité d'église, le troisième jeudi de chaque mois, nous nous réunissons, les chrétiens Québec, Polynésie française, Sénégal, France, Belgique, Suisse, etc. Et on se réunit pendant une heure par mois, troisième jeudi de chaque mois, de 20h à 21h, pour prier pour les frères et sœurs persécutés. On vous met dans des petites salles où vous êtes avec d'autres chrétiens, où vous êtes dans l'unité du Christ pour prier pour nos bien-aimés. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Et voilà, si jamais un jour nous sommes dans l'épreuve, hein, nous avons les frères et sœurs, les bien-aimés. Et voilà, j'aimerais qu'on reste encouragé de se dire, Seigneur, il y a peut-être un but. Il y a quelque chose que tu veux m'apprendre dans chaque situation de ma vie. Voilà. Merci Seigneur pour ta grâce et ta bienveillance. Nous te bénissons Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur mon Dieu de nous avoir encouragés au travers de cette parole. Cette foi Seigneur qui est éprouvée et qui est plus précieuse que l'or, que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu. Et merci Seigneur parce que même si des fois les choses paraissent négatives, tu as toujours un but pédagogique. Tu veux nous faire progresser dans tes voies, progresser dans ta grâce, progresser dans ton amour Seigneur. Et tu veux nous faire progresser dans la foi, dans la confiance que nous te portons. Et Seigneur, nous voulons ici dire que nous te portons, nous avons confiance en toi, dans nos vies de tous les jours. Mais nous avons peut-être besoin, Seigneur, d'enlever des choses, d'extirper des choses de nos vies, qui nous empêchent d'être libres avec toi, Seigneur. Et cette liberté que je veux prier aujourd'hui pour mes frères et sœurs, qu'ils soient persécutés, dans lequel tu les libères de toute oppression, de toute chose qui kidnappe leur cœur, mais aussi les frères ici de cette assemblée, ainsi que moi-même, dans tout ce qui pourrait nous retenir captifs, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu, d'agir puissamment dans leur vie, dans nos vies, dans les vies des membres du corps de ton corps, Seigneur Jésus. Et merci, Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de tes révélations. Nous te prions, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs.